C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Bram Stoker, écrivain 1847-1912, Irlande, marié, gay dans le placard, élevé dans le rite de l'église d'Irlande. Œuvre, Dracula, roman, publié en 1897 en Irlande. Première traduction française partielle 1920, complète en 1963 par Lucienne Molitor. Personnage Dracula. Adaptation multiple au théâtre, au cinéma, à la télévision, en chanson. Première apparition au cinéma dans Nosferatu le vampire de Franz Murnau en 1922. C'est un être humain qui a deux canines supérieures saillantes. Non, pas Delphine Seyrig. Non, pas François Mitterrand avant la campagne électorale de 1980. Oui, Dracula. Être humain, ou bien humain trop humain, comme le disait Nietzsche. Mort-vivant, voulant à tout prix rester du côté des vivants. Le prix, c'est une morsure qui rend le vivant mort, lequel ira à son tour à la recherche de sang frais, aux roues infernales. Dracula fait partie des romans populaires qui ont réussi à créer des personnages durables, ce qui, d'une certaine façon, est une injustice. Le génie n'est pas la condition indispensable, il peut être battu aux voix par la quantité de lecteurs. C'est le seul exemple de démocratie en littérature. C'est la popularité qui fait que Dracula, l'oncle Tom ou James Bond viennent prendre place à la table du prince André, de Nana ou de Fabrice d'Aldongo. Et en réalité, ce sont eux qui les invitent. Ils sont les cousins riches de la famille qui invitent gentiment les pauvres sur leur yacht. Rabelais est fort, avec un aspect cruel et terrible, le nez droit, les narines dilatées, un visage mince et rougeau. Je viens de lire la description par un émissaire du pape du fameux Vlad l'Empaleur, voïvode, au XVe siècle en Valachie, dans l'actuelle Roumanie. Les premières chroniques théâtralisant ces exactions paraissent dès 1462. La bonne idée de Bram Stoker, 400 ans plus tard, est qu'il a rendu Dracula chic. Personne n'a envie de passer 600 pages avec un rustre valaque rougeau. Dans le roman, Dracula est comte. Façon de le civiliser, car c'est un titre d'Europe occidentale qui n'existait pas en Transylvanie. Et, par contraste, de le rendre encore plus effrayant. Vlad l'Empaleur aurait bel et bien existé, mais peu importe. La source principale de Bram Stoker est sa propre imagination, greffée sur les vampires, inventée en fiction avant lui. Il y avait même eu une femme vampire dans un poème de Coleridge en 1816. Sauf erreur, le premier roman avec un vampire est le sien. La mention de son goût sexuel n'est pas négligeable. Il me semble assez net que Dracula est l'incarnation du minoritaire réprouvé et isolé, tel que peut le voir un minoritaire qui se sent coupable. En tout cas, Bram Stoker a écrit un roman tellement pompé, aspiré, reproduit et sous tant de formes, vampirisé en un mot, qu'on ne le lit plus. On sait trop ce qui se passe. En même temps, c'est le seul livre de lui dont on ait gardé le souvenir. L'auteur est sauvé par son personnage. Pour parler de Dracula, je reçois François Angelier, producteur à France Culture, dont nous retrouvons l'émission Mauvais Genre le samedi de 22h à 23h. François Angelier, à quoi ressemble le Dracula du roman ?
Le Dracula du roman est un personnage, un grand personnage voûté, avec des moustaches blanches, avec des dents extrêmement aiguës. C'est un personnage qui est un maintien à la fois aristocratique, monastique, avec des échappées bestiales, qui fait que le personnage est un peu à géométrie variable, c'est-à-dire que par moment, il vous accueille comme un gentleman farmer, un hôte un peu érémitique, un personnage discret, replié, et en même temps, il se déploie, parce que dès que le sang apparaît, il y a une sphère de phénomène comme ça, brusquement, de personnage, comment dirais-je ?
Se déploie
véritablement, déploie une espèce d'envergure animale et se précipite sur sa proie, ce qui fait que, il varie énormément selon les secondes et selon les moments, et la variation maximum, c'est quand Jonathan Harker se met à la fenêtre et le voit ramper sur la façade, telle une chauve-souris accrochée à une paroi rocheuse. Donc c'est un personnage qui a une dimension, je dirais, assez traditionnelle au début, et puis qui après évolue dans des mondes qui sont ceux de l'animalité et presque de la surnaturalité.
Est-ce que Bram Stoker décrit son habillement ?
J'ai pas un souvenir très précis. Je pense qu'il a un habillement assez sombre, assez austère. Il a un habillement de clergyman. Je pense qu'il a au contraire une volonté de camper Dracula dans une sorte d'austérité presque inquisitoriale. Enfin, c'est un personnage qui n'est pas du tout flamboyant, terrorisant au sens traditionnel du mot. C'est un personnage inquiétant, envoûtant, mais en aucun cas comme ça qui manifesterait d'emblée une terreur propre.
Dans la description de Vlad Lampaleur que je donnais à l'instant dans ma présentation, ce qui m'a frappé, moi, c'est le mot rougeau. Il faut être en bonne santé pour être un vampire.
C'est-à-dire que tout dépend à quel moment on prend le vampire. Finalement, le vampire rougeau, c'est plutôt le vampire des origines, parce que le vampire a une capacité qui est celle de stocker le sang. Très souvent, quand on ouvre le cercueil d'une créature vampirique, on s'aperçoit qu'il est bondé de sang, il est gavé de sang, et le sang finit par perler. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose chez les mystiques, c'est-à-dire
que
le sang. Alors non, parce que ça c'est un autre aspect, c'est que je pense qu'il y a de grands parallèles à faire entre le corps des mystiques et le corps des vampires.
D'où vient le mot vampire ? Alors, puisque François Angelier ne veut pas me le dire, moi je vais dire ce que j'ai trouvé, en tout cas qu'on en trouve la mention chez un auteur allemand de tout à fait troisième ordre, en 1748, Der Vampir. Voilà. Et le nom de Dracula signifierait « fils du diable ». Mais ça, c'est une interprétation que ne donne pas Bram Stoker dans le livre.
Oui, puisque le diable n'apparaît pas dans le Dracula de Bram Stoker. C'est d'ailleurs une des dimensions essentielles du livre. C'est que nous avons un personnage qui échappe complètement à la référence luciférienne et à la référence méphistophélique. C'est bien plus, ça on pourra en parler un peu plus tard, un Christ du chaos, un Christ démantibulé, et une parodie, une singerie de la figure du Christ plutôt qu'une réincarnation de la figure du diable.
Est-ce que vous ne pensez pas que une bonne idée, même si après tout ça vient de Vlad Lampaleur, est de d'avoir situé le roman en très grande partie, puisqu'une partie est à Londres, dans les Balkans, c'est-à-dire quelque chose qui est éloigné mais qui n'a pas non plus l'Asie profonde, c'est-à-dire à la frontière de l'Europe occidentale et civilisée, parce que c'est un roman frémissant aux marges aussi, Dracula.
Absolument, c'est un roman marginal, mais c'est un roman qui a, je dirais, les Balkans de Stoker sont un peu comme l'Inde de Conan Doyle. Ce sont des univers marginaux, des univers éloignés, mais qui ne sont pas, je dirais, totalement déréalisés. C'est-à-dire qu'on est toujours susceptible d'avoir capté de ci, de là, une information, une image, un son, une figure venant en définitive des Balkans. La Chine ou le Japon, là, on est vraiment dans l'exotisme. Avec les Balkans, on n'est pas dans l'exotisme. On est aux limites de l'Europe. Et c'est ça qui est la force du roman, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de marginalité européenne et non pas d'exotisme. Et c'est cette marginalité inquiétante. Quelqu'un comme Jean-Louis Schaeffer a analysé Dracula dans ce sens. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de tectonique des cultures, des croyances et des peuples qui fait que là, c'est la zone de frottement entre le monde, je dirais, de l'islam, de la Turquie, et le monde de l'orthodoxie, le monde de la chrétienté. Donc c'est cette espèce de frottement, de zone de frottement qui fait que le lieu est beaucoup plus inquiétant qu'un lieu purement exotique.
D'ailleurs, on sait que Bram Stoker n'y est pas allé, qu'il l'a décrit de pure imagination.
Oui, Bram Stoker est un bon Irlandais résident à Londres qui travaillait beaucoup dans le théâtre avec son ami et son modèle Henry Irving et qui fréquentait plus les galeries, le British Museum et les lieux d'archives, d'érudition. Il a même rencontré cette grande figure de l'orientalisme qui est Herminius van Berry, dont il a fait Van Helsing, qui était justement de ces figures fascinantes d'érudits et d'orientalistes autrichiens qui étaient justement campés loin des Balkans et qui se spécialisait dans la connaissance de toute cette région. Donc c'est ce qui fait aussi la force fantasmatique et poétique du personnage. C'est à aucun moment, il y a une volonté d'un témoignage de terrain. On est purement, un peu à la Jules Verne d'ailleurs. Et là, dans cette espèce de reconstitution littéralement dans laquelle il injecte véritablement des fantasmes, des pulsions, on a quelque chose de fort sur le plan romanesque.
Je crois qu'il faudrait dire, pour les très rares peut-être qui ne sauraient pas ce qui se passe, ce qui se passe dans le roman, François Angelier.
Ben oui, Jonathan Harker est donc employé chez un notaire, un agent immobilier. Et donc, il est envoyé en mission dans les Balkans pour négocier avec un aristocrate local la vente d'un bien immobilier en Angleterre. Et donc, il s'y rend. Et c'est sur place que tout se joue, puisque effectivement, il découvre la figure de Dracula. Dracula en fait un peu sa chose. Il découvre aussi les vampirettes, c'est-à-dire toute la cour féminine qui entoure le vampire. Et après, on assiste, alors là, c'est-à-dire justement à ce reflux. La première partie du roman est une partie d'expatriation, c'est-à-dire voilà un jeune homme qui était très à sa place dans la culture anglaise, dans la société anglaise de son temps, qui avait un travail, tout ce qu'il y a d'honnête, rémunérateur, et qui était promis un mariage. Et qui est arraché à ce confort et à cette certitude pour être envoyé, alors je dis, non pas au bout du monde, mais dans des zones incertaines. Et c'est cette incertitude qui fait qu'il est, il est terrible, c'est beaucoup plus angoissant. Et après, on assiste au retour, c'est-à-dire que le retour du refoulé, mais l'arrivée de Dracula en Angleterre, et l'infection, la manière dont le vampirisme se dissémine et où justement le vampire joue avec les personnages qui sont à la fois proches de Jonathan Harker, Mina, et puis aussi ce personnage dont il a fait sa créature, qui est un peu son pas son ange gardien, mais son espèce d'annonciateur de Saint-Jean-Baptiste draculéen, qui est donc ce personnage qui est détenu en prison.
Et alors, il y a une chose frappante dans le roman, c'est que c'est très habilement fait, je dois dire, une combinaison de journaux intimes, de coupures de presse, de rapports de médecine, de lettres. Et c'est vraiment un roman d'écrivain assez naïf. C'est-à-dire que c'est typiquement le roman d'un écrivain dans le sens où il pense que l'écrit va gagner contre le mal et la matérialité du mal. C'est des gens qui écrivent et qui pensent, et heureusement qu'il y a Van Helsing, parce que de temps en temps, il vaut mieux une bonne raclée qu'une pétition, non?
Absolument. Et Van Helsing est là pour conjoindre les deux. Il y a un côté Indiana Jones chez Van Helsing. C'est-à-dire qu'il faut joindre, mais ça, c'était vraiment, je dirais, un signe de l'époque victorienne. Burton, Richard Burton, l'orientaliste, a incarné au mieux cette posture d'être à la fois un aventurier prêt à tous les coups de main, un érudit énorme et un savant, je veux dire. Et Van Helsing a cette force très Indiana Jones d'être à la fois un homme d'action, un homme qui est capable de faire le coup de main et en même temps d'avoir l'intelligence scientifique et érudite de tout cela.
Alors la chose frappante de Dracula, c'est qu'il n'a aucun cas de conscience. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait, il mord, il pompe le sang ou il suce le sang. On le voit donner un bébé en pâture à ces trois femmes-là qui l'entretient puisqu'il est polygame.
Un bébé roulé dans un lange.
Voilà, c'est ça. Il a absolument aucune conscience.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de conscience parce qu'il n'est que pulsion. La nécessité, le fonctionnement de Dracula, c'est l'absolue nécessité de se nourrir de sang. Donc là, tout est ruse. Il a des stratégies. Il a des combines, mais il n'a pas du tout de conscience puisque ce qui prévaut chez lui, c'est l'assouvissement. Et la nécessité de se maintenir en vie, c'est toute une espèce de quête vitale, permanente et insensée et effrénée, qui fait qu'il n'est pas du tout lié à des problèmes de conscience, des problèmes psychologiques ou des problèmes affectifs. On est véritablement chez lui dans la prédation pure. À aucun moment, il ne se pose de questions sur qui est qui et est-ce que le bien, est-ce que le mal. Lui, il est là, il faut qu'il se nourrisse. Donc, on est véritablement dans l'assouvissement.
Alors, vous disiez quelque chose tout à l'heure à propos de Van Helsing, qui est le savant que vous disiez, mais ce qui est assez frappant, c'est que Dracula n'est pas un pur barbare. Van Helsing lui-même rappelle que quand il était vivant, lui-même, Dracula, il a été un savant, un alchimiste qui représentait, dit Van Helsing, le plus haut degré de la science de son temps. Donc c'est pas simplement un sauvage qui pompe du sang. Il y a une idée de déchéance, non, dans Dracula?
Oui, parce qu'à l'origine, effectivement, le statut social et la dimension effectivement aristocratique du personnage en fait un personnage qui peut mettre au service de sa faim et de son désir effréné de satisfaction de sang une des stratégies savantes. Effectivement, on n'est pas du tout, c'est pas un loup-garou au sens où un monstre paysan du folklore qui est lâché la nuit dans la lande et qui se repaît de ce qu'il trouve, que ce soit un chien, un mouton, une bergère. Chez Dracula, déjà l'idée de vouloir acheter un lieu en Angleterre, de faire venir à lui un clerc de notaire, d'élaborer toute une stratégie, fait quand même qu'il y a une sorte de mécanique, une stratégie sociale quand même chez Dracula, mais elle est mise au service d'une espèce de pulsion énorme.
Bien sûr, et ça va au-delà de l'idée de se servir des êtres humains pour leur sucer le sang. Il est spécifiquement dit dans le roman, il vint à Londres pour conquérir un pays nouveau. Donc on sent que Bram Stoker veut nous dire que c'est une menace, mais une menace plus qu'individuelle.
Tout à fait, ça n'est pas un phénomène solitaire. Et de toute façon, ça fait partie de la nature du vampire. À la différence, je dirais, d'un maître spirituel, le vampire fonctionne par clonage. C'est-à-dire que le vampire ne cesse d'être en quête de clones et en quête de semblables. Il faut qu'il transforme le monde entier, il faut qu'il vampirise le monde entier pour que le monde entier lui ressemble. Le vampire ne supporte pas l'altérité, c'est un homme du même et du semblable. Donc c'est dans cette espèce de clonage universel par le biais du vampirisme que Dracula va posséder le monde, en commençant par l'Angleterre. Bien sûr, ça c'est de par la nature de Stoker.
Oui, c'est ça, un Irlandais voulait se venger
des
Anglais.
Voilà, c'est ça, quel plaisir de voir l'Angleterre dévastée par...
Alors, il y a une chose que Van Helsing dit et qui est frappante aussi, c'est qu'à un certain moment, il trouve Dracula admirable. Il dit « il a tout accompli tout seul à partir d'une tombe en ruine au fond d'un pays oublié ». Donc, il y a une part d'admiration de quelque chose d'un surhomme, il n'est plus homme, mais quelque chose comme ça. Et c'est assez frappant aussi d'une certaine idée que peut se faire, vous parliez d'Irlandais, peut-être un Irlandais d'un Anglais féroce. C'est l'époque de la guerre des bourgs et c'est l'époque où Churchill, qui n'était pas ce qu'il est devenu, recommandait de bombarder les populations indigènes et cette espèce de brutalité comme ça. Il y a aussi une parabole sur la brutalité, non ?
Il y a une parabole sur, je dirais, l'impérialisme et l'asservissement. C'est-à-dire que Dracula est une puissance impérialiste, au sens qu'il ne considère pas de limite à l'extension de son pouvoir et de son implantation sur la Terre. Je veux dire, tout doit être vampirique. À ce titre, effectivement, Dracula peut être une métaphore de l'impérialisme britannique, avec sa fringale de domination, qui va quand même, à l'époque, effectivement, de l'Inde au Canada, en passant par l'Australie et autres. Donc effectivement, il y a peut-être une dimension là, une critique voilée de l'Angleterre, mais je pense pas non plus que cette espèce de figure solitaire, c'est plutôt l'antéchrist à ce moment-là. Il est plus antéchrist qu'autre chose.
Nous allons maintenant entendre Orson Welles à l'époque où, avec son Mercury Theatre, il produisait une émission de radio. Et sur qui en a-t-il fait une, cet homme qui avait de si bonnes idées sur Dracula ? C'était en 1938.
And now here is the director to tell you about next week's Mercury Theatre production, Mr. Orson Welles.
Ladies and gentlemen, what are your favorite stories? If there is one you're particularly fond of and would like to hear on the air, will you please write me about it? Next week the Mercury Theatre is going to tell you Robert Louis Stevenson's exciting yarn about pirates and the sea, Treasure Island. Until then, just in case Count Dracula has left you a little apprehensive, one word of comfort. When you go to bed tonight, don't worry. Put out the lights and go to sleep. It's all right. You can rest peacefully. That's just a sound effect. There. Over there in the shadow, see? It's nothing. Nothing at all. Nothing at all. I think it's nothing. But always remember, ladies and gentlemen, there are werewolves. There are vampires. Such things do exist.
François Angelier, il est à peu près évident que Dracula, c'est le mal contre le bien, mais c'est tellement évident que c'est probablement un peu plus que cela. Parmi la très copieuse documentation qu'on peut lire sur Dracula, il m'a semblé qu'il y avait une assez grande pruderie, parce que, enfin, le bien ou le mal, on a compris, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est cette sexualité refoulée de Stoker. Son biographe David Scholl, l'an dernier, a retrouvé une lettre que Stoker avait écrite à Walt Whitman, où il est dit, elle est très intéressante relativement à Dracula, où il est dit, je cite, qu'il est un homme vivant, il se présente, je suis un homme vivant, dans une atmosphère de préjugés aux vérités que vous chantez. Et cette... D'ailleurs, cette part de Bram Stoker est si peu mystérieuse qu'un écrivain gay américain, Christopher Bram, a pris son nom en image à Stoker. Donc, est-ce que le roman étant écrit en plein victorianisme, et l'auteur étant ce qu'il est, Dracula n'est pas, au-delà du bien et du mal, un esclave du désir inassouvi ?
Tout à fait. Je pense que c'est un grand roman sur le désir et l'assouvissement du désir. De fait, effectivement, Bram Stoker était homosexuel. Sa fascination immédiate, ce coup de foudre immédiat qu'il a eu pour Henry Irving, la vie professionnelle et sûrement sentimentale que les deux hommes ont menée ensemble à Londres et puis lors de leur tournée américaine, le contact très précoce que Bram Stoker a eu avec Walt Whitman, donc qui sentait pas seulement le corps électrique, mais le corps masculin. Donc il y a une dimension effectivement charnelle, homosexuelle assez claire, et je pense que elle ne peut pas se manifester de manière
manifeste, oui.
Mais voilà, dans la littérature victorienne. Donc en utilisant ces multiples épaisseurs de masques que sont l'enquête dans les Balkans, enfin la mission dans les Balkans, cette espèce d'aristocrate vampire qui mord le jeune homme. Bon voilà, on en arrive justement à la figure du désir, de l'assouvissement et du contact charnel violent. Je pense qu'effectivement, ce qui fait la force de Dracula, c'est que effectivement Bram Stoker n'a en aucun cas circulé dans les Balkans, que c'est une connaissance livresque, que c'est une connaissance de deuxième, voire de troisième main, de témoignages, de rêveries, de fantasmes. Mais il y a au cœur de cela une appétence érotique, charnelle, homosexuelle, extrêmement violente, ce qui fait la force du livre.
Et d'ailleurs, c'est si bien ça qu'une des nouvelles de Bram Stoker dans un recueil qui n'a pas été traduit, mais qui s'appelait Une glace d'Ankly, à un personnage de vampire lesbienne, qui est peut-être, je ne sais pas, mais qui est peut-être la première. Donc, on voit bien
La vampire lesbienne, le lesbianisme est aux racines même de la littérature vampirique, puisque la Carmilla de Sheridan Le Fanu, Marguerite de Courtempierre, est un grand moment, juste une grande figure d'amour féminin. Ça a été très bien montré dans une adaptation qu'on peut. Radiophonique de l'histoire. On est véritablement très souvent dans des amours homosexuels au sein du vampirisme.
Dracula répand le mal à cause de ce désir. Une chose que nous n'avons pas dit de François Rangelais, qui n'est peut-être pas négligeable, c'est que Bram Stoker a été élevé dans le rite de l'Église d'Irlande, qui n'est pas l'Église catholique, mais qui est une Église réformée. Donc, est-ce que, et d'ailleurs il me paraît frappant, que la plupart des auteurs de textes et de romans ou de nouvelles sur les vampires à cette époque-là étaient des protestants ou des réformés? Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment une part de création de frissons qui manque à leur rite?
Peut-être une volonté de courir après la présence charnelle, une sorte de réalité brute, palpable, préhensible, quelque chose d'un érotisme sacré qui manquerait peut-être à la réforme, enfin je veux dire à certaines confessions du milieu anglo-saxon. Par ailleurs, il y aurait quand même des vampires français, je veux dire Théophile Gautier.
La morte amoureuse.
Voilà, il y a quand même une tentative en milieu catholique de mise en place de vampirisme, mais c'est vrai que c'est plus spécifiquement depuis Polidori, donc cet ami de Shelley, donc parce qu'il faut rappeler quand même que le vampire a été créé pendant la fameuse nuit de feu qui nous a également donné Frankenstein. On est plus dans un milieu anglo-saxon.
On parlait de la religion de Bram Stoker. Vous le disiez dans la première partie de l'émission, François Angelier, qu'il avait un rapport entre le mysticisme et Dracula.
Oui, parce qu'étant donné que le diable est complètement absent du roman de Bram Stoker, moi j'avais été frappé par les coïncidences qu'il y a entre le récit vampirique, horrifique, et le récit mystique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Dracula n'est pas le diable, mais qu'il est un Christ en désordre. C'est une sorte de Jésus du chaos qui reproduit de manière déformée, qui singe véritablement. On dit souvent que le diable, c'est le singe de Dieu. Eh bien, Dracula, c'est le singe du Christ. Par exemple, on peut comparer la morsure vampirique avec les trous dans les
stigmates.
Avec les stigmates. Et j'avais comparé dans un article pour Lerne l'exhumation du corps saint et l'exhumation du corps vampirique. Et dans les deux cas, on retrouve des corps qui sont absolument intouchables et qui sont encore roses, frais, les articulations sont ployables et le sang est présent. Et donc, très très étrangement, je veux dire, on a l'impression que le vampire est là pour singer l'histoire, pour singer la mystique. Ça, c'est extrêmement curieux et on pourrait développer tout un tas de références, par exemple dans le roman de Stoker, il y a le trône de Dieu, il y a la manipulation permanente d'objets comme ça, de reliques, d'objets religieux. Il y a véritablement, je pense, une dimension christique du vampire.
Mais j'ai pas le sentiment qu'il soit ni le roman ni le personnage qui soit blasphématoire. Est-ce qu'à aucun moment
il y a... Ce qui est pire. Disons ce qui est traditionnel, c'est la messe noire, c'est l'invocation au diable, c'est la souillure, c'est la volonté justement de dire la messe à l'envers. Là, on oublie tout, ça va même au-delà. ça n'est pas la messe qu'on dit à l'envers, c'est le corps du Christ qui est manifesté à l'envers. Et c'est un christianisme en creux que manifeste Dracula.
Alors, il y a une chose, c'est pour continuer sur votre comparaison, c'est que dans la religion, le Christ souffre. Mais est-ce qu'à aucun moment Dracula souffre ?
C'est ça, justement. C'est le grand mystère. Il est évident qu'il fait souffrir. D'abord, première chose, le vampire ne s'impose pas.
Comment
le vampire frappe à la porte et on lui ouvre. Regardez, dans tous les récits vampiriques, la vampirisation est une réponse. C'est-à-dire qu'il faut lui ouvrir la fenêtre pour qu'il entre. Et est-ce que le vampire souffre ? S'il souffre, il souffre à l'image du Christ. Je veux dire, le vampire ne connaît pas le jardin des Oliviers, mais cette espèce de soif, non pas éternelle, mais sempiternelle de sang, qui l'amène à cette quête de corps vivant en permanence, est une forme parodique de la souffrance du Christ, à mon avis. Donc il y a une souffrance du vampire, mais qui est telle qu'elle se transforme en cruauté, presque.
Mais enfin, là, c'est nous qui la déduisons. Elle n'est pas exprimée dans le roman.
Ah non, justement, oui, ça fait partie,
oui,
je
oui,
dirais,
bien sûr, de l'interprétation. Mais en même temps, Dracula, mort, remords, surmort et remords, etc., etc. Il y a une réitération perpétuelle. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est aussi une figure du damné ?
À ce sens, il est un damné puisqu'il ne sort pas. Il ne sortira pas. Je veux dire, le vampire qui échapperait à la damnation serait une sorte de vampire du purgatoire, qui connaîtrait une sorte de guérison. Alors, il y a certains films de vampires où effectivement la guérison apparaît, une sorte de purification. Mais au contraire, le vampire est une forme de damnation. Mais là encore, une damnation qui n'est pas la damnation éternelle, qui est plutôt, c'est un esclave du temps.
Dans les représentations qu'en ont fait le cinéma après le grand succès du roman de Bram Stoker, il y a eu une invention qui me paraît frappante et très fine. C'est que, vous le disiez au début, comme Vlad Lampaler d'ailleurs, Dracula dans le roman a une énorme moustache. Et dans les films, on en a fait un personnage glabre. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Peut-être pas tous les films.
Pas tous les films. Je pense que le Dracula de Jess Franco, joué par Christopher Lee, est un Dracula moustachu.
Mais sinon,
il est lisse.
Ça me paraît une bonne idée parce que ça l'éloigne de l'idée justement presque historique ou proto-historique de Vlad Lampaler. Ça le déshistoricise en quelque sorte de le faire glabre. Il a cette figure blafarde beaucoup plus. Ça me paraît une très bonne idée des cinéastes qui ont fait ça, pas vous ?
C'est-à-dire que il faut voir les incarnations.
Christopher Lee et Bela Lugosi, par exemple, sont glabres.
Alors Bela Lugosi, un visage lunaire, un visage lisse, pâle, totalement. Christopher Lee, ce sera à peu près la même chose. De fait, effectivement, il y a un parti pris là qui est assez efficace. Parce que la moustache, en plus, signalerait une activité, la pilosité renverrait une espèce de vie, de quotidien.
Oui,
l'homme barbu, l'homme moustachu, soigne sa barbe ou sa moustache, se rase régulièrement. Donc on rentre dans un quotidien. Le vampire échappe d'une certaine façon au quotidien.
Et là, il est cadavérisé
Et en plus, comme il est mort, il ne peut plus être pileux.
Qui verriez-vous aujourd'hui comme interprète de Dracula au cinéma si vous deviez comme ça caster un acteur ?
Alors je réfléchis.
Moi, je verrais assez Louis Garrel.
C'est une bonne idée, oui. Je pense que Louis Garrel ferait un Dracula tout à fait cohérent. Sinon, j'ai pas.
Vous avez droit à une femme aussi, hein, si vous avez envie.
Il faudrait que je réfléchisse un peu.
François Angelier, que vous a appris le personnage de Dracula ?
La solitude du désir. C'est-à-dire que le personnage de Dracula, moi, que j'ai lu Dracula, j'avais 11 ans, dans la collection Marabout Fantastique, préfacée par Tony Febvre. Et ce qui m'a frappé, c'est cette espèce d'avidité et de solitude. Je pense que c'est une des plus belles figures de solitude, puisque même s'il mord le monde entier, il restera toujours dans cette solitude, et c'est ça qui m'avait le plus impressionné, c'est la dimension d'ermite, la dimension de solitude du vampire.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de recherche et de documentation Daphné Algral. Prise de son Renaud Fluzin.
De ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Espoir.